Bienvenue à Micro-Sillon,
des interviews fantastiques.
L'ambiance est bonne et le café est bon.
Ah ça c'est vrai, on est très bien reçu.
Bienvenue nouveaux compagnons,
de la musique, du documentaire, etc.
20 minutes écoute notre émission.
Attention.
Hommage spécial dédicace.
Nous souhaitons en ce jour du 28 janvier vous présenter le sommaire des différentes émissions que nous proposent les différents adhérents de l'association pour le mois de février et évoquer le déménagement qui a eu lieu dans la semaine du 13 au 18 janvier. La plupart des adhérents qui ont participé y ont tous mis de la bonne volonté et un état d'esprit convivial afin d'intégrer le nouveau lieu dans de bonnes conditions et s'y organiser selon le goût de chaque adhérent. Nous souhaitons également vous rappeler que nous avons intégré les nouveaux locaux et que nous sommes désormais situés au 1 rue François Lopez, 31-200 Toulouse.
Et oui, et même si le local change, les feuilletons restent. Nous commençons cette émission de février avec Jean-Pi et le bébé singe, l'histoire radiophonique de Rodolphe Orville, et nous en sommes à l'épisode numéro 8.
Et par la suite, nous allons écouter Blad, épisode numéro 38. Et avec grande joie.
Ah, le feuilleton radiophonique d'Alban Rock.
Vincent Galzin nous propose aujourd'hui deux portraits. Le premier, celui de Bob, un acteur militant dans l'accueil de jour des grands précaires, la boutique des solidarités. Et le second, celui de Dolores, militante au festival Andiamos.
Et Niné ensuite, donc, la fée du logis et la fée de toutes les Africaines et du monde entier, nous allons écouter une chanson d'elle.
Ensuite, nous aurons la chance d'écouter Alto Mal-être, l'épisode numéro 5, qui est une chronique de prévention sur le suicide par Roger Javel.
Et ensuite, il y aura la musique de Christophe Capello du groupe Zirgle and the Way, du nom Planetary.
Puis ensuite, une interview de Vincent Galzin sur Michael et sa ferme thérapeutique. Une grosse interview.
Pour rire un bon coup, nous écouterons l'émission Impossible, un sketch de Nabi Toumi et d'Éric Marot, l'épisode numéro 1.
Néo Philomoé, épisode numéro 36, un feuilleton présenté par Alban Roche. Et pour conclure, vous pouvez nous écouter sur notre site internet microsillon.free.fr en nous écoutant aussi sur nos dizaines de radios partenaires. Nous vous informons que nous avons déménagé. Nous sommes au 1 rue Francis Lopez, 31-200 Toulouse. Si vous voulez nous contacter, nous sommes toujours joignables au 09 50 55 99 35 ou en nous écrivant un mail à association.microsillon@gmail.com. Nous vous remercions et nous vous souhaitons un bon mois de février. On se retrouve au mois de mars pour de nouvelles aventures. Restez bien à l'écoute de Microsillon. C'est plus que des mots, une radio.
Et bonne écoute.
Chers amis, bienvenue dans l'histoire de Jean-Pi et le bébé singe, une histoire racontée en 25 épisodes par votre ami Rodolphe Orville, d'après un texte de Claude Moirand, paru en 1963 aux éditions Hachette. Cette histoire, entièrement enregistrée sur bande magnétique, a été réalisée avec une musique sur pick-up stéréo tourne-disque. Petit détail, à l'écoute si vous entendez un récurrent, c'est qu'il s'agit bien d'une fabrication artisanale. C'est le raccord de bande cassette. Réalisé en 1985 et remasterisé en 2018, de 63 à 2019, 56 ans plus tard, l'histoire est toujours là. Résumé général. Comment Jean-Pi, ayant récupéré par hasard un petit chimpanzé, est appelé à le faire adopter, non sans mal, par les habitants du pays des enfants. Aujourd'hui, épisode numéro 8, des bananes pour Babylas. Oui!
Mais quand ? Résumé de l'épisode précédent, Jean-Pi a caché le petit chimpanzé chez lui, mais l'enquête se poursuit. Jean-Pi a été même vertement accusé par Gontran, mais des amis de Jean-Pi ont pris sa défense.
Mais quand il rentre chez lui ce soir-là, Lisette l'interpelle. « Attention Jean-Pi, ton chien est devenu fou !»« Quoi ?» demande Jean-Pi.
Il n'a pas cessé de faire un bruit d'enfer, explique Lisette. Je voyais les rideaux remuer, j'entendais des chocs sourds. Et même, il a cassé un carreau.
Jean-Pi se retourne, regarde ses fenêtres. C'est vrai, une vitre du premier étage est étoilée.
Un chien qui brise les vitres, répond Lisette. Mais je n'avais encore jamais vu cela.
Tu n'es pas rentré, demande Jean-Pi.
Oh non, pour rien au monde, je ne serais allé chez toi. Pour me trouver nez à nez avec une bête enragée, je suis bien. Il faut bien faire le vétérinaire, vite, vite.
Ne t'affole donc pas, répond Jean-Pi. Capucine était énervée d'être enfermée, voilà tout.
Mais le carreau,
eh bien, je... Jean-Pi cherche une explication, car évidemment, ce n'est pas Capucine qui peut lancer des objets à travers la chambre.
Eh bien, j'avais dû laisser le balai appuyé près de la fenêtre.
Capucine a dû le faire glisser, il a brisé la vitre.
C'est tout simple, tu vois.
Et il s'empresse de rentrer chez lui.
Un étrange spectacle lui attend. Babylas est suspendu par les pattes derrière, la suspension qui éclaire la pièce. Il tient Capucine par les pattes de devant et lui fait faire du trapèze volant comme un cirque.
Il saute sur la table et se cache soudain la tête entre ses mains, comme s'il pleurait. Jean-Pi ne peut empêcher de rire. Puis, rapidement, il prépare son dîner et remplit les duels de Capucine. Celle-ci ne se fait pas prier pour manger. Babylas reste sur la table.
Allons, viens manger, lui dit Jean-Pi.
Babylas s'approche, flaire la pâte, se détourne avec des mines dégoûtées et se croise les pattes devant comme Jean-Pi s'est croisé les bras.
Monsieur fait le difficile, dit Jean-Pi. Que lui faut-il donc?
Il offre diverses choses au jeune chimpanzé qui les rejette. Il ne semble aimer que les oranges et le sucre.
Jean-Pi commence à se demander comment le nourrir. Que mange donc une chimpanzée? Il faudrait regarder dans le dictionnaire, mais Jean-Pi n'en a pas. Alors, il fait des essais. Il verse du lait, sans succès.
Un bout de fromage ne prête pas davantage à Babylas.
Un morceau de pain s'en va voltiger à travers la pièce.
Alors Jean-Pi, quand tu auras vraiment faim, tu mangeras de tout, comme les enfants. Et il se met à table, car lui, il a grand appétit.
Soudain, il lève les yeux pour observer Babylas et voit que ce dernier est accroupi dans un coin de la pièce devant un grand livre illustré qu'il a fait tomber d'une étagère basse. Oh, monsieur sait lire ? S'exclame Jean-Pi, amusé par la mine sérieuse du chimpanzé. Babylas ne lève même pas la tête. Alors, Jean-Pi s'approche.
Le livre que regarde Babila, c'est une encyclopédie illustrée pour les enfants. L'Afrique. Sur la page ouverte, on voit de robustes noirs qui grimpent un bananier. Au front des blancs, on a dessiné un énorme régime de bananes. Babila, penchée sur le livre, caresse doucement les bananes de la main droite et, passant la main gauche sur ses lèvres, il fait d'un air ravi. Compris, dit Jean-Pi, que je suis bête de n'y avoir pas pensé plus tôt. Tu auras des bananes demain, Babilas, c'est promis.
Seulement, voilà. Dans toute affaire, il ne faut jamais s'engager trop vite.
C'était Jean-Pi et le bébé singe, raconté par votre ami Rodolphe Orville, d'après un texte de Claude Moirand. Chers auditeurs, pour la suite, rendez-vous le mois prochain, même heure, même fréquence. En attendant, gardez votre âme juvénile. À bientôt!
Oyez, oyez, citoyens, citoyennes, associations, savez-vous, vous avez le droit d'écrire dans l'espace public.
Non.
C'est incroyable.
Il existe un outil formidable dédié à l'expression citoyenne. Les panneaux d'affichage d'opinion. Ils sont un cadeau de la démocratie.
Ah bon ?
Eh oui, ils sont régis par l'article L581-13 du Code de l'environnement. Selon la loi, chaque habitant doit avoir un panneau à moins de 1 km de chez lui en agglomération. C'est intéressant ça. Dis-moi en plus.
L'association Un mur dans le réel a eu une idée.
Nous avons ouvert un site internet pour récolter les expressions.
umdr.fr. Quoi ?
UMDR ?
Un mur dans le réel.
Les mains dans la colle. Ou la main à la poche.
Soutenez-nous sur Hello Asso.
Construisons ensemble l'espace public de demain.
Merci.
Merci.
Ouais. Merci.
La 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 la.
On écrit sur les murs, mais on fait pas que le dire.
Bim.
Épisode 38, assassinat à Portolan. À l'épisode précédent, Edel Stilgia a utilisé ses capacités intellectuelles inhabituelles pour une guerrière afin de résoudre une affaire de vol en manque, puis Blad a décidé d'être un héros en courant sauver le pilote et copilote d'un biplan qui s'est écrasé lors d'une phase d'acrobatie en emportant les carats avec lui pour leur donner bonne réputation. Mais le feu est ravivé par les échecs critiques de Rock.
Passe-moi une de tes balaxes.
What ?
Arme gelée.
Une lourde plaque de glace se pose sur la hache et Andir la jette devant la porte.
Tu peux sortir ?
Pas trop, il a encore trop de
flammes. Blad parvient à replacer le siège si fort qu'il arrive à le bloquer sur la balaxe. Il veut pouvoir désincarcérer et évacuer le copilote le prochain round. Le feu commence à nouveau à être entamé et le pilote avance hors de la carlingue, une case devant la porte. Mais il est toujours entouré de flammes. Blad saute sur la carlingue en désincarcérant le copilote et le pose de 9 mètres de là. Rock continue à entamer le feu mais entame également d'un échec critique le pilote qui est à nouveau à moins 1 PV. Le feu étant faible, Blad opte pour sauter et arrive à rejoindre le pilote.
Oh non, il est blessé!
Blad prend une grande inspiration et s'accroupit, alors que le feu se ravive sous les effets critiques de Rock. Qu'importe, il hisse le pilote, Andir aidance beaucoup en poussant du nez et le hisse au-dessus de lui, puis le fier barbare badass court à travers les flammes, avant de lâcher le pilote debout sur le sol avant de stopper, se lâcher et rouler sur l'herbe fraîche. Il prend deux rondes à éteindre son feu. Le reste de l'équipe arrive quelques moments après, et Blad pousse un...
Cowabunga !
De victoire ! Rock prenant une pause derrière et Andir servant le coussin au copilote, Blad est récompensé 5 PO plus le prix d'une suite pour son équipe à la taverne d'aventuriers du coin. Il y place avec son équipe une nuit de repos bien méritée. Le soir d'après, Blad regarde les feux d'artifice dans les rues de Portolan, quand soudain...
Oh, encore un soudain ! C'est plus si classe si tu redis...
Ah, la nef à quelques mètres de lui s'effondrant. Détection ! T'as vu une minuscule silhouette s'en aller.
4, bien vu.
Tiens.
Outoué voit l'assassin en flou. C'est une duergar, aux cheveux courts et de couleur dégradée, allant du blond au vert vif, ainsi que des taches de rousseur.
11.
T'as vu une petite silhouette à forte poitrine s'en aller.
18. Mais...
Je sais, chaotique mauvais, t'es pas intéressé.
9. Raté. 17.
Tu vois les pailles, ça remarre une tache blanche au flambant. Un peu en arrière.
La barbarie des hommes est sans limite, mais c'est pas moi qui devrais m'en plaindre.
Ajoute Blad avec ironie.
Lâchez vos armes, vous êtes en état d'arrestation. N'essayez pas de jouer au petit. T'as bien la
vie. Hurle un commissaire gnome en pointant son arbalète.
On n'a même pas encore sorti aux armes. Vous devriez aussi dire ça à la guerrière avec les taches rousses aux cheveux rouges verts, aux cheveux courts verts tirant sur le jaune qui vient de se barrer.
Quant à nous, on homme tempère. On n'a rien fait, pas vrai?
On pourrait aider encore mieux ces messieurs, comme par exemple dire que l'assassin avait une tache blanche au flanc droit de sa robe.
Et que c'était une femelle et à forte poitrine en prime. Et qu'elle faisait à peine un mètre et une trentaine de kilos à vue.
Wouah, quand on sortira de la cellule, on pourra très vite la retrouver.
Arrêtez d'être coopératif. Vous pouvez pas genre fuir ou quelque chose du genre, vous l'adore. Le quota d'arrestation.
On leur niche un des flics qui menottent tout doué.
Au pire, on vous donnera un pot de vin au mieux ou on vous invitera à dîner. Si on arrive à les arrêter avant qu'on reparte, c'est avec le cirque.
Après être allé en cellule, l'un des gardiens remarque qu'en plus, c'est le barbare qui a sauvé un pilote d'essai et son comparse qui se sont cachés le nid des derniers. Bravo les flammes pour secourir un innocent. Mais ce n'est pas cela qui lui fera libérer le lendemain matin.
Lève-toi et brille, monsieur Blad. Lève-toi et brille.
Quel est votre héros préféré ou...
Écrire, flâner, découvrir, parler, se refléter, échanger...
Des interviews diverses et variées.
De l'envoyé spatial. Voilà, reportage 31.
Vincent. Donc bonjour, je suis avec une personne de la boutique de la solidarité. Là, on va être sur le moment de la conférence de presse. Il va avoir une marche aussi. Donc je vais laisser se présenter un participant.
Je m'appelle Bob, ça fait 4 mois que je suis ici. Si la boutique, elle ferme, mais ça va être la plus grande galère parce qu'il n'y a aucune bagagerie dans tout Toulouse. C'est le seul endroit qu'on peut poser nos bagages.
Qu'est-ce que vous apporte cet endroit, une bagagerie, mais à part ça ?
À part ça, on peut prendre une douche, on peut déjeuner, on peut se raser. S'ils avaient des problèmes psychologiques, on peut avoir un psychologue, un psychiatre, et il peut nous orienter.
Et vous avez des échanges entre autres participants aussi, vous pouvez discuter,
oui,
faire...
Oui, j'ai des échanges avec... depuis que je suis ici, j'ai eu beaucoup d'amis aussi, j'ai rencontré beaucoup de bonnes personnes. Et les gens qui travaillent ici aussi, qui sont très gentils avec moi aussi.
Et comment vous avez connu cette de bouche à oreille?
Oui, c'est des SDF de la rue qui m'ont dit qu'il y avait ça. C'est comme ça que j'ai connu la boutique.
Et vous savez à peu près pourquoi ils veulent fermer ou pas?
En fait, parce que les locaux, ils sont plus dans les normes déjà. Il y a beaucoup de problèmes avec les gens... Le voisinage, voilà, surtout.
Mais si vous voulez rajouter quelque chose ?
Non, non, pas du tout.
Bon, mais merci à vous de cette petite participation.
De rien.
Des interviews diverses et variées.
De l'envoyé spatial. Voilà, reportage 31.
Vincent.
Vous êtes sur l'émission. Émission faite par des handicapés psychiques.
Alors, la boîte à édition, c'est le truc que l'on fait avec Nicolas TV.
C'est
le truc direct.
Alors, nous, c'est toujours l'émission.
Oui, c'est toujours l'émission.
D'accord.
N'ayez pas peur de la maladie mentale, vous êtes déjà malade.
Des interviews diverses et variées.
De l'envoyé spatial. Voilà, reportage 31.
Vincent. Donc bonjour, me voici au Festival Andiamos avec une participante depuis fidèle depuis plusieurs années. Je vais la laisser se présenter.
Alors moi c'est Dolores, je viens au festival depuis 5 ans et je trouve que c'est très très bien organisé. La présidente Betty qui organise tout ça avec les bénévoles. Il y a beaucoup de concerts qui sont intéressants et je trouve ça génial, beaucoup de monde et voilà. Donc quoi dire d'autre, c'est super bien.
Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement, le lien avec l'handicap et l'artistique?
Les deux sont très bien. L'handicap, les gens qui ont monté des groupes, c'est vraiment génial quoi. Je trouve que c'est super quoi. Donc c'est pour ça que je reviens chaque année. Voilà.
Et que pouvez-vous dire sur le handicap qu'il n'est pas assez mis en valeur de nos jours? Ça reste encore un tabou?
Oui, c'est vrai, c'est dommage parce que pour l'handicap, ils peuvent faire beaucoup de choses, que ce soit de la musique comme on voit aujourd'hui, de la musique, ils forment des groupes. Ils font de tout comme les gens autres et c'est dommage qu'on ne les mette pas en valeur. et qu'on les mette un peu à part. C'est vraiment dommage. Parce que c'est des personnes qui sont vraiment bien intelligentes. Ils ont un handicap, voilà. Mais bon, c'est dommage de les mettre un peu de côté.
Et merci, si vous voulez ajouter quelque chose, une promo peut-être
Ben écoutez, venez nombreux au Festival Indian Moss parce qu'il y a du monde, il y a des buvettes, il y a des sandwichs, buvettes, des boissons. N'hésitez pas et bravo à la présidente qui est Betty, voilà.
Et vivement la 10e édition qui sera normalement sur 2 jours.
Voilà, c'est ça, l'année prochaine, hein, okay. Si tout va bien. Merci.
Allez, de rien, au revoir.
Des interviews diverses et variées.
De l'envoyé spatial, voilà, reportage 31.
Vincent.
Quelle horreur! Le corps du cadavre a été strié!
Olson, on a affaire au tueur au micro-sillon!
Celui qui utilise la création sonore comme arme? Oh.
Néné, parfum de savane, rose des vents, de la lune, sécurité du sommeil. Nous sommes des nouveau-nés, et toi, tu es ange d'or de la nature. Néné, amour des femmes et des hommes qui retournent à l'enfance. Qui retournent à l'enfance. Rien que pour une nuit de sommeil. Nous ne voulons pas nous réveiller. Néné, car près de ta poitrine chaude, nous sommes en sécurité. Réveil forcé, nous avons de la nourriture d'Afrique sauvée. Toutes les femmes doivent partager pareil dans les mêmes circonstances. Néné, parfum de savane, rose des vents de la nature, sécurité du sommeil. Nous sommes des nouveau-nés. Et toi, tu es ange de la nature. Néné, jungle de savoir. Je me nourris de tes fruits dans la paume de ta main qui étanche ma soif. Là où tu es apparu, Néné, tout le monde se porte garant de l'amour universel que tu as envers nous. Néné, prise de confiance, tu es notre perle rare, Néné.
Bienvenue, chers auditeurs, à la rubrique Halte au mal-être. Son auteur est Roger. Il est président de l'association Halte mal-être pour la prévention du mal-être conduisant aux gestes suicidaires, principalement chez les jeunes.
La dernière fois, nous avons évoqué le pourquoi de cette émission. Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles au 06 22 00 75 34. La dernière fois, nous avons vu les facteurs de risque liés au moins comportemental. Nous allons maintenant voir les facteurs de risque liés au moins psychologique. Citons l'angoisse, la perte de l'estime de soi, la perte de confiance en soi, l'image de soi. L'image que nous renvoient les autres ne correspond plus à celle que nous souhaiterions. Exemple, je voudrais passer pour un bon joueur de football, et les autres me font comprendre que ce n'est pas le cas. Poursuivons. Peur face aux difficultés. Sentiment permanent d'être en situation d'échec. Sentiment de gâchis face aux échecs cumulés. Recherche d'identité. On a besoin de savoir qui on est. Intellectuel, manuel, musicien, sportif, etc. Traumatisme du passé tel que maltraitance dans l'enfance. Maladie mentale. Schizophrénie, bipolarité, dépression. La dépression est une maladie grave, surtout quand elle est sévère. Elle doit être soignée. La dépression au travail est appelée burn-out. Ce n'est pas être fou que d'aller voir un psychiatre. Quand on souffre des dents, on va voir le dentiste. Quand on a mal dans sa tête, on va voir le spécialiste qui est le psychiatre. De plus, 99% des cas de dépression se soignent. Et cela peut être assez long. Un manque de soins peut conduire au désastre. Continuons. L'irritabilité, l'agressivité, la colère, le sentiment de solitude, l'impression de ne pas être compris, de ne pas être soutenu, prêt à rien, désintérêt pour les activités habituelles, idées noires, envie d'en finir. Nous avons listé, sans avoir la prétention d'être exhaustif, les facteurs de risque liés au moi psychologique. La prochaine fois, nous évoquerons les facteurs de risque liés à la famille. Le merci de votre écoute avec Micro-Sillon.
Phew, je suis épuisé de chanter. Au mois prochain pour un nouveau Alto Mal-être. Let's go on and see it together and frolic all the way to the skyline. Go look out over the city, gather dreams in our pockets so pretty. Blue skies and neon lights, what a sight. Did you know we could do anything? Come on, let's sing together and together and.
Nous avons des preuves formelles. Des extraterrestres habitent sur une autre planète.
Le micro-sillon.
Les missions.
Les ondes de micro-sillons.
Atelier radio.
Avec des interviews.
Des interviews diverses et variées.
De l'envoyé spatial. Voilà, reportage 31.
Vincent. Bonjour, donc me voici de nouveau au festival Andiamos pour la 9e édition avec Michel de la ferme du Foron, thérapeutique du Foron, qui fait aussi de l'animation radio.
Tout à fait.
Donc je vais le laisser se présenter.
D'accord, ben je te remercie beaucoup, mon ami.
Vincent.
Donc ben, première chose déjà, bravo pour l'association Micro-Sillon, ce groupe d'entraide mutuelle, ce qu'on appelle les GEM. Déjà quand il y a le mot GEM, moi j'aime bien. Et donc du coup, oui, effectivement, nous on fait de la radio en partenariat avec la radio locale du Volvès qui est Radio Galaxy, ce depuis plus d'une dizaine d'années, parce qu'on a dû commencer en 2007 si je ne m'abuse. C'est une radio, c'est une émission qui est faite par des résidents, conçue par des résidents, où il n'y a pas de barrière particulière. C'est la ligne un petit peu éditoriale serait la poésie, mais on peut y faire du théâtre, on peut y parler des langues différentes, on peut y chanter, on peut faire de l'improvisation musicale, le tout étant de s'approprier un média de liberté d'expression citoyen, puisque la radio, les radios dans lesquelles nous on a des partenariats sont des radios municipales, publiques, les anciennes radios libres. Donc voilà, on est toujours enchanté de voir la magie justement que représentent ces moments privilégiés où que ce soit le résident, l'auditeur, le technicien ou l'éduc, en fait on est tous pareils. Si on a mal, on a mal. Si on s'émerveille, on s'émerveille. Et surtout, il n'y a pas de barrière et il n'y a pas de moi je sais ce qui est bon pour toi, donc tu dois faire comme ci ou comme ça. Donc il y a un grand espace de et si on changeait un peu les rôles et si finalement c'est peut-être ce monde qui régit un petit peu, qui doit aller bien, qui doit aller mal, ou en tout cas selon des maladies reconnues ou comprises, ce qui n'est pas toujours le cas, comment faut faire pour aider tout ça. Et donc tout simplement, moi j'ai pas de solution particulière, mais je peux dire que le média radio est quelque chose qui est très important pour des gens qui sont en dehors justement de ce circuit là en général, quand on interviewe les gens du médico-social, les usagers, bah, c'est pour leur donner leur avis sur la fête ou sur ils étaient bons les gâteaux, alors qu'en fait ce sont des gens qui pensent exactement la même chose que nous sur les problèmes de leur vie. Ils ont les mêmes problèmes que nous à gérer, la solitude, l'angoisse de la mort, sauf que nous on s'arrange et pas eux. D'où l'importance de l'encadrement, de l'accompagnement, certainement aussi des traitements. Mais il est bien évident qu'aujourd'hui notre société elle-même étant tellement, on peut le dire, malade, pour pas dire schizophrénique, que finalement on ne sait plus très bien qui doit soigner qui. Donc la radio en tout cas est une possibilité de parler d'égal à égal et en toute liberté.
Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans ce festival Andiamos qui est en lien avec l'artistique et l'handicap?
Ce qui me plaît avant tout, c'est que justement la meilleure façon de se sentir comme tout le monde, c'est de faire la fête, c'est de s'appuyer sur l'ouverture culturelle qui représente l'acceptation des différences, de toutes les différences, c'est d'être capable de s'émerveiller sur un groupe qui fait du rock ou sur une lecture de poésie, c'est regarder la beauté du ciel et voir qu'il y avait des photos accrochées sur des murs qu'on n'avait jamais avant. Ce qui m'intéresse avant tout dans le festival d'Andiamos, c'est une espèce de zone temporaire autonome, hein, comme disait Hakim Beck, un philosophe que j'aime bien, américain. Ici, on dirait qu'il y a un monde à part qui établit ses propres règles pour un moment, et c'est marrant, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de gens qui ont envie d'être plus fort ou plus bas que les autres, on est tous au même niveau, et c'est très important parce qu'on est tous dépendants des mêmes vrais problèmes. Encore une fois, je crois que les gens qui sont les usagers du secteur du médico-social ont plus la problématique de s'arranger avec les problèmes de la vie, que nous, soi-disant bien portants, on arrive encore à s'arranger. Mais je crois que c'est ce genre d'endroit qui nous montre que, donc, comme le festival Andiamos 2019, qui nous montre qu'il faut vraiment réenvisager l'accompagnement, réenvisager la façon d'aider les gens qui en ont besoin, peut-être sans nous oublier nous-mêmes, et puis surtout avoir envie de dire que ce qui ne marchait pas avant, il faut le changer. Il n'y a pas forcément de solution, je ne sais pas, il faut les inventer, il faut de l'empathie, il faut du sens, il faut négocier, il faut inventer, puis après il faut dédramatiser, parce que même quand il y a de la misère, même quand il y a du malheur, malheureusement il y en a beaucoup sur cette terre, ces endroits-là, ces moments-là, comme cette journée du 18 septembre 2019, ça donne envie d'y croire en toute liberté.
C'est décalé par rapport à l'interview, mais par rapport aux mouvements sociaux et des gilets jaunes en ce moment.
En fait, pour moi, les gilets jaunes, c'est simplement le cri d'un peuple qui souffre d'injustice sociale et de discrimination devant l'avenir. Donc effectivement, il faut être à fond avec les gilets jaunes. Mais il faut se dire que si les représentants d'aujourd'hui, légaux, comme on dit, les syndicats les partis politiques, plus ou moins élus démocratiquement, ne font rien, il faut les substituer. Et donc c'est tout le problème, c'est que de cette mouvance qui est une mouvance spontanée de colère du peuple, qui peut donc être récupérée assez facilement, c'est là où il faut vraiment s'y mettre, doit émerger un nouveau front de résistance. Bon, ça serait bien qu'il y ait des syndicats qui s'y mettent, mais visiblement ils ont peur de quoi ? De perdre leur bout de gamelle, l'aristocratie ouvrière, comme disait Jack London dans Le Talon de Fer. Non, je crois qu'il faut aussi réinventer la résistance sociale, et puis ne pas oublier qu'une république avant tout c'est quoi ? C'est pas pour le CAC 40 une république, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour aider les gens qui ont besoin de soins, c'est pour aider les femmes isolées, c'est pour donner de l'accès à la culture, c'est pour faire qu'on puisse se déplacer dans le monde et se mélanger, se nourrir des autres façons de vivre, de cuisiner. Tout ça, c'est ce qu'il faut réinventer en fait, puisqu'aujourd'hui on ne nous parle que du sillon, puisqu'on parle de micro-sillon dans lequel on nous a posé et il ne faudrait pas en sortir. Le sillon, j'en ai rien à faire, et les gilets jaunes, de tout cœur avec eux, parce que moi je veux faire partie de quelque chose qui est la renaissance d'une société, si possible non violente, mais si on ne s'y met pas à tous, ça va être plus compliqué.
Et il faut tracer son propre sillon et faire des micros un peu partout.
Écoute, il faut absolument que tu viennes à mon émission de poésie. Mon cher Vincent, t'es parfait. Bah voilà, c'est ça. Le micro-sillon, pourquoi micro ? Le sillon suffira. Et puis, sillon égale graine, égale croissance, égale amour. Alors moi, dès qu'on parle de ça, je suis partant avec tout. Donc il faut croire en nous, avant tout, et arrêter de penser que les gens qui décident de notre vie et qui ne la vivent pas ont raison. C'est nous qui avons raison. Si on n'en serait pas aussi nombreux dans cette planète qui n'en peut plus de suffoquer, d'être dans l'hystérie du gain pour un tout petit nombre, pour la lamination du reste de ce qui reste justement de réel d'une démocratie, même pas mondiale, mais au niveau occidental. Donc si on ne montre pas l'exemple, je crois qu'effectivement, c'est plus pessimiste qui risque de se passer, et notamment dans des secteurs comme le médico-social, qui sont malheureusement aujourd'hui dirigés par des gestionnaires, par des cadres qui feraient mieux de bosser chez Coca-Cola ou chez Lafarge-Copé, mais sûrement pas dans le médico-social où la vraie mission c'est d'accompagner et d'aider.
Une autre marque, parce qu'on n'a pas le droit trop de citer les marques.
Ah bah écoute, tu mettras un blanc. Moi quand je fais la radio, je fais des montages, tu te démerderas, mon cher Vincent, mais je te remercie de ta gentillesse et je t'encourage, et surtout on a besoin de vous avez besoin de nous, mais le monde sans être tous ensemble, donc en s'acceptant comme on est, c'est-à-dire dans toutes les différences de couleur, de peau, de culture, de langage, de capacité à se tenir debout, assis, couché, en l'air, c'est tout ça l'humanité. Et c'est de ça dont on a besoin, franchement, pour sortir de cette merde et passer à autre chose au niveau global.
Une petite question pour finir par rapport à la radio, parce que vous en faites, et moi aussi. Comment vous expliquez le fait que les radios commerciales ou de municipalités comme France Bleu, par exemple, ne se mélangent pas avec les radios associatives ou les radios en lien avec le handicap ?
C'est très simple, parce que toutes les radios dont tu parles sont en fait des radios qui appartiennent à un système, c'est-à-dire tout ce qui est média en France appartient à 7 ou 8 milliardaires. Là, récemment, on a vu à quel point ils rachetaient des journaux qui pourtant perdent du fric. Donc en fait, tout ce qui est radio dont tu parles, c'est de la radio commerciale, dont le seul but est d'avoir des auditeurs qui vont écouter de la pub pour que les annonceurs donnent des sous. Et la qualité de ces émissions, elle est lamentable. Donc on pouvait dire qu'avant, il y avait encore un groupe public, c'était le groupe Radio France. Maintenant, malheureusement, il y a de la pub dessus. Pareil, les partenaires de France Inter, c'est le Figaro. Enfin, c'est une cata. À part France Culture, je dois dire qu'il reste l'orgueil du groupe Radio France.
Ou
FIP, mais FIP, c'est de la ZIC, si tu veux. Donc, mais oui, bien sûr, super FIP. Mais je parle sur les radios qui représenteraient une façon de vivre. C'est pas vrai. RTL, France Inter, RMC, Europe 1, toutes ces merdes appartiennent à des gens qui contrôlent la vie qu'on mène et qui veulent pas qu'on fasse autre chose que d'avoir peur de ce qui pourrait se passer si on essayait de faire autre chose. Donc évidemment, ils vont pas aider les radios libres, les radios municipales. Mélange pas, hein, municipales, ça n'a rien à voir avec Radio Bleu. Ils vont pas aider les radios indépendantes en fait, parce qu'elles n'ont pas autre budget que ou les subventions municipales ou du Conseil Général, ou c'est des assos qui les font tourner parce qu'elles sont pour le sport ou je sais pas quoi. Mais ça, c'est parce que l'information aujourd'hui appartient complètement à un critère critères de profit. Alors si ça t'intéresse, il faut lire Noam Chomsky, on va pas se rentrer dans... mais c'est très intéressant, il a écrit un bouquin passionnant qui s'appelle La fabrique du consentement, qui est en fait toutes les fake news, comment au bout de 15 ou 20 ans, on va sans même y penser, dire bah oui forcément, ils avaient raison, c'est bien eux les méchants, c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela. La manipulation des esprits, c'est très important, et en fait, voilà la différence avec des émissions comme la tienne, des émissions comme nous on fait, c'est qu'on cherche pas à gagner du pognon, on cherche juste à faire vibrer les gens, à s'enrichir de ce qu'ils ont à nous dire, à partager ce qu'on voudrait qu'il se passe, et puis à espérer ensemble quelque chose de mieux. Mais certainement pas lié au profit et au pognon, comme tu le disais, l'explication numéro un, c'est celle-là. Hein. Si t'as pas de panneau européen en diamant, c'est parce que ça rapporte pas de fric. Qu'est-ce que tu veux qu'ils foutent là? Ils s'en tapent, d'accord? Ben voilà, la réalité est là, les amis. Le problème, c'est qu'Europe 1, les dirigeants, ce sont des gens qui travaillent pour des grosses banques. Donc je ne vais pas me lancer sur tout ça, ce n'est pas la peine. Mais une des dernières résistances en termes de secteur, c'est encore le médico-social, où il y a encore beaucoup d'aventures comme Micro-Sillon, il y a beaucoup de résidents comme de professionnels, entre guillemets, qui s'investissent vraiment du fond de leur pensée de
comme
citoyens.
Comme la Colifata, par exemple.
Comme la Colifata, qui est un bon exemple, mais surtout, c'est qu'on est une vraie tranche de sociale. On ne peut pas composer sans nous en nous disant, bah, de toute façon, on ne veut pas voir bouger une tête. Aujourd'hui, le médico-social, c'est ça. C'est en gros dirigé par des gestionnaires avec des budgets qui se réduisent en permanence. Et l'invention de la liberté, l'invention de la thérapie, elle est beaucoup plus liée aujourd'hui à la culture, au sport, aux ONG, comme Emmaüs, comme des gens où nous, grands spécialistes de la misère, on a vraiment une place, on a vraiment une plus-value à amener, et en même temps une énorme force de travail gratuite. Donc n'oublions pas que nous, on a des allocations, tant qu'on en a encore, lâche. Si on peut faire profiter de gens qui veulent s'impliquer pour rendre service, il est évident que c'est beaucoup mieux que des ESAT, où finalement on ne fait qu'être des ouvriers exploités à moitié du prix. Et encore, il n'y a plus de place. Donc de toute façon, on peut oublier les ESAT. Qu'est-ce qui reste? La culture, le sport, l'art et les ONG. Voilà, ce en quoi je crois moi en tout cas.
Mais merci sur ce, et bonne continuation. Un petit mot à rajouter pour la fête, pour conclure?
Oh ben, pour la fête, pour conclure, je dirais vive vous, voilà ce que j'ai envie de dire. Et vive la liberté.
Merci, au revoir.
Avec plaisir.
Des interviews diverses et variées.
De l'envoyé spatial, voilà, reportage 31.
Vincent,
Bienvenue à l'émission.
Démission? Où ça, une mission?
Oh, encore ce...
Agent micro, au service de l'agence.
Le plafond! N'utilise pas le style lance-flamme ici!
Oh, ça va.
Alors, c'est la première du duo éditorialiste de la grande voie lactée céleste. Et là...
Céleste?
Oui, c'est l'Est et l'Ouest. C'est partout.
Ah, j'avais pas compris.
C'est partout. Oh, grand maître.
Oui, Captain Nabi.
Oui, grand maître Minnie Mouse.
Minnie Mouse. Minnie Mouse,
mais Mouse. Qui fait le maximum.
Oui.
Voilà, monsieur grand maître, 1m50 plutôt.
Parce que 1m50, t'es généreux. Moi, je... Oui.
Avec les talons.
Oui, bon. Et les talons rembourrés.
Dites-moi ce que l'esprit grand dinosaure est venu vous parler cette nuit.
Ah, Captain Nab, moi, j'aurais surtout envie de te parler d'une chose étrange que j'ai remarquée là dernièrement.
Étrange et merveilleuse.
Oui, étrange et merveilleuse. Enfin, pas pour ceux qui la vivent. Écoute bien cette histoire.
Non.
C'est totalement étonnant. Moi, je trouve ça fou. Je te jure, je croirais même qu'il y a un complot. Ourdi, tu sais par qui? Quelque chose d'improbable. Les arbres.
Non.
Si.
Moi, il y en a un, il m'a attaqué la voiture, il a traversé la route. Tu sais.
Toi aussi. Il y a même mieux. À chaque fois qu'il y a du vent, Captain Nabi, il y a un arbre qui tombe. Et tu sais quoi? Il y a toujours quelqu'un dessous.
Dessous? Moi aussi. Moi, j'étais sous quand il a traversé.
Je te dis dessous, pas dessous. Sous. Ah. C'est vrai que quand t'as un arbre qui traverse la route, soit on était sous, pas
oui,
dessous.
Dessous.
Et oui.
Et la ménémousse, elle est sur l'arbre au nord.
Oui, alors attends. Là, moi, je te dis toujours, quand il y a du vent, en France notamment, puisque je suis français.
Oui, un peu de couleur de français.
Bounty, on appelle ça.
Bounty, beaucoup de
plus Bounty que...
Que Mars.
Mars, oui, je préfère
parce qu'on a un président qui est Jupiter.
Alors voilà mon histoire. Moi, j'écoutais la radio là dernièrement. Enfin, à ce moment-là, c'était plutôt l'hiver dernier, un grand coup de vent qui soufflait dans nos montagnes. Je sais plus, je dirais les Pyrénées. Et alors à ce moment-là, comme les parcs de Toulouse, tu sais que quand il y a un peu de vent, on ferme les parcs.
Pour éviter que... Oui, à cause des écureuils. Ils s'envolent.
Ceux qui volent, ouais, j'avais remarqué aussi. Tu sais, le jardin des plantes, je me disais, c'est pas qu'un jardin des plantes, il y a des expériences.
Ouais, c'est un jardin planté même. Alors, t'as déjà pris un écureuil dans la gueule, je te jure, ça fait mal.
J'en ai mangé un.
Ah, ça, c'est un coup de noisette.
J'en ai mangé un. Alors, je vais essayer de finir ma petite histoire.
Oui.
J'ai écouté, c'était un point journalistique. Et j'entendais, moi déjà, j'étais persuadé qu'il y avait en fait une révolution d'arbres. En fait, qu'ils en avaient marre de nous, les êtres humains. Et là, pour vraiment me mettre un coup et définitivement me convaincre que oui, il y a
un coup de bambou.
Ah, tiens, j'ai une histoire avec du bambou aussi. Ouais. Tiens, voilà mon histoire. Voilà. Vas-y. Vous savez qu'est-ce que c'est qu'un bambou? Tu sais, Captain Nap, qu'est-ce que c'est qu'un bambou?
Moi, on m'a toujours dit, tiens, le bambou. Il faut te dire le bambou.
Attends, ne balance pas la fin de mon histoire.
Ah bon?
Ah, c'est deux bambous qui tiennent une corde, et chacun à l'extrémité. Et tu sais qu'est-ce qu'ils se disent?
Non.
Chacun?
Non.
Ah, je tiens le bambou.
Oh ben, c'est...
8 ans!
Il faut que tu reviennes la semaine prochaine, toi.
Oui, Capitaine, je serai là.
Ouais, mais alors la fin de l'histoire?
Ah, la fin de l'histoire.
Parce que toi, tu es chaman ou chanoir?
Ha! Ha! Chagrin, mec! Chagrin!
Il est fou! Il est fou!
Il y a plus fou que ça. Ce type-là, il finit de descendre sa piste. Ah, on est toujours dans les montagnes.
Oui,
excusez-nous.
Oui, Pyrénées.
Oui, on va dire
parce
les Pyrénées.
Qui sont pires que nez.
Oui, je suis d'accord avec toi. Ouais. Tiens, d'ailleurs, tu sais qu'est-ce que c'est qu'un poisson qui n'a pas de date de naissance?
C'est.
Oui, bois. Tu es pas loin.
Bois.
Langocha?
Oui.
Oui, poisson pané.
Il a parlé cela. Et quand tu parles d'arbre, tu sais, il y a deux sketchs, deux steaks qui. Hop, il joue à cache-cache, tu sais. Et hop, l'autre, il disparaît. Il dit eh, mais t'étais où? Ben, j'étais steak caché.
Mais normalement, ils sont plusieurs. Parce que c'est un steak qui vient de surveiller dans une assiette, dans son frigidaire.
D'accord.
Et ses amis, ses autres morceaux de viande, normalement, qui étaient avec lui dans cette assiette, ne sont plus là.
Oui.
Alors, je te raconte bien l'histoire. Il se réveille dans son assiette, au milieu, dans le frigidaire, entouré de yaourt, de melon.
De melon, tu laisses tranquille, s'il te plaît.
Oui, salami. Tiens, tu sais quel est le genre que tout le monde déteste? Ah oui, il faut que je continue mon histoire.
Ouais.
Oui, bah c'est le salami, tiens.
Il y a des bons copains, il y a des salamis.
Voilà notre morceau de viande qui se réveille tout seul dans son assiette, en plein milieu du frigidaire, au milieu des bouteilles d'eau. Et je t'avais dit qu'il y avait du melon, du yaourt.
Mais laisse-les tranquilles, melons, ils sont bien au Maghreb.
Pour te dire qu'il est bien entouré, malgré tout. Mais il se réveille seul. Ses autres amis, morceaux de viande, ne sont pas là autour de lui. Et il se met à pleurer, tout chagrin.
Je suis tout seul dans mon assiette, où sont passés mes amis, morceaux de viande et tout.
Il les cherche partout, derrière le gruyère. Il cherche aussi derrière une raclette. Je crois qu'il y avait une raclette dans ce frigidaire. Et finalement, il revient dans son assiette, déçu. Comment on pourrait dire tellement déçu qu'il en saigne. Il saigne de douleur, ce morceau de viande.
C'est un steak saignant, quoi.
Et il pleure. Oui, il pleure. Il pleure du sang, c'est un steak.
Oui, c'est un steak.
Et puis, à ce moment-là, il y a quelqu'un qui arrive, il entend du bruit. Il se retourne. Et là, il voit ses amis morceaux de viande. Ses trois petits amis morceaux de viande. Et tu sais qu'est-ce qu'il leur dit? Mais pourquoi tu pleures, mes morceaux de viande? Mais vous n'étiez pas là quand je me suis réveillé. Mais c'est quand c'était bien caché.
Ouais.
On s'était bien caché.
Ouais,
c'était caché.
Ouais.
Bon, d'accord.
Petit morceau, quoi.
Ça fait plouf.
Oui, c'est d'accord. Comme pour finir comme ça, quoi.
Oui, c'est une longue histoire pour pas grand-chose.
Ouais. Mais bon, on va voir s'il n'y a pas des auditeurs pour la prochaine fois.
Disons que c'est une première.
Voilà. Bon,
Captain Nab.
Eh bien, on se dit à bientôt.
Heureux d'avoir participé à cette première émission.
Alors, n'oublie pas que c'est un mensuel.
Ah.
Et bientôt, ce serait un hebdomadaire. Alors,
Captain Nab, il faut que j'organise. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut juste que je vienne.
Ouais, tu viens, mais tu te brosses les dents parce que franchement, à la radio, ça sent pas.
Tu crois qu'ils sentent?
Ouais, ça, un peu.
Bon,
surtout. Mais,
et tu crois qu'ils voient là ce que.
Ouais.
Non? T'es sûr?
Si. C'est les ondes, c'est le chaman.
Ah oui, peut-être qu'il en. Oh là, je vais faire attention.
Grand Dieu céleste!
Oui!
Money Mouse!
Ah, c'est pas moi!
Grand maître!
Oui!
1m50.
Bon.
Avec les talents.
Trop d'honneur.
Je te remercie. Tu retournes à ton monastère.
Oui.
Tu...
Et je continue à
tu
faire.
Tu parles à tes disciples.
Oui.
Tu les salues de.
Nabi, crois-moi si tu le veux, mais je leur dirai que ça vaut le coup tout ça.
Ouais.
Oui.
Il faut y croire.
Je sais plus de quoi on parlait là déjà.
Non, mais c'était pour conclure.
Génial.
Allez,
merci.
À bientôt.
À bientôt.
Au revoir. Mmh.
Parfois, écouter les vieux, c'est mieux. Vu que je me sens vieux, voici l'heure de Néophile au Moé. Épisode Zobuga, instauration de la phallocratie. À l'épisode précédent, j'ai parlé de la nécessité d'une morale. Dans Trop plein de sciences et de logique binaire, j'ai dû déjà vous parler de la croyance ancestrale en la déesse mère et comment cette dernière a été reniée en faveur de la croyance en divers dieux pères. Dans ce chapitre, on commencera par ce constat et on finira par avouer ce qu'aucun homme ose avouer en public, tant de s'auréoler de bravoure intellectuelle en trahissant son propre genre. L'état des relations entre hommes et femmes lors de la préhistoire était plus ou moins similaire à celui des coloriers d'Alexandre Jardin. L'homme face à la femme était à moitié confus, la moitié pensante qui ne comprenait pas l'autre, et à moitié transi et désireux de pénétrer, la moitié animale programmée pour la reproduction. La femme, quant à elle, était à moitié confuse, et à moitié prise d'un désir inconnu. Face à une moitié d'homme, la femme hésitant entre envie et réflexion était capable de convaincre l'homme de réfréner ses ardeurs, par communication verbale, gestuelle et éventuellement masturbation, et parvenir à des « entre guillemets accords » ou échapper à ces dernières, tels les coloriers montant aux arbres. Le sexe était, en quelque sorte, plus ou moins « entre guillemets contrôlé » par les femmes, car ces dernières en avaient déduit davantage à ce sujet que les hommes. L'équilibre changea lorsqu'au sein de tribus importantes, certains hommes se rendirent compte que, entre guillemets, les esprits possèdent plus facilement la femme lorsque l'homme dépose avec son bâton son liquide blanc dans la fente entre les jambes de la femme, et en déduisirent la position de vulnérabilité de la femme. Soudain, l'homme se présenta entier devant la femme, complètement désireux de pénétrer pour affirmer sa domination sur elle, et les femmes les plus jeunes et innocentes ne purent pas échanger grand-chose. Ce fut les débuts d'un rituel existant dans nos sociétés depuis des millénaires, qui garantit la domination indiscutable et inéluctable de l'homme sur la femme, et qui commence à peine à être dénoncé, même au XXIe siècle, le rituel initiatique de la dépossession du corps de la jeune fille par défloration. Ce rituel a été mis en place par la génération des « entre guillemets hommes mûrs », entre parenthèses, qui contrôlent la distribution du savoir et donc l'éducation sexuelle, pour métamorphoser la « entre guillemets femme en devenir » en « entre guillemets fille éternelle », en la faisant rencontrer le « entre guillemets homme immature » ne pouvant contrôler son désir. Il n'y a rien de plus violent pour une femme encore vierge et innocente, entre parenthèses et même après, qu'un pénis en érection. C'est un peu comme si l'homme était un pistolet qui ne peut tirer qu'une fois. Certes, il ne tire qu'une fois, mais ça suffit amplement. Une femme peut facilement maîtriser un homme en se montrant douce, en le repoussant, voire le masturbant, entre parenthèses le désarmant, mais une fois qu'elle est pénétrée, il est très difficile, souvent impossible de repousser l'homme à nouveau. Ce simple fait, on ne l'enseigne pas à l'école. On enseigne comment un pénis marche, comment un vagin marche, comment la grossesse marche, et c'est tout. Savoir théorique et mathématique générant la confusion une fois sur le plan pratique. Et pendant le temps de la confusion, la pénétration suivra rapidement, même dans les rares cas où le jeune homme ne voudra pas faire de mal à la jeune femme malgré le désir ardent de forniquer. Et même quand elle est consentante, la jeune femme sera frappée du stigmate de la faiblesse que la société lui rappellera par les agents sociaux. Quand la jeune femme choisit de délayer la « entre guillemets première fois » et la rapporter plus loin, les loisirs se prêtent de plus en plus au brassage des sexes, et la limite de la ménopause se fait de voir de loin dans notre société médicalisée. Et la discothèque, le moyen et l'endroit le plus populaire de « entre guillemets rencontrer l'amour », est un lieu où se déroulent des combats stupides sous forme de musique demandant aux filles de « entre guillemets secouer leur cul » et « entre guillemets mettre ses mains en l'air » pour favoriser les « entre guillemets hurts » et de se saouler, se déshabiller à moitié, entre parenthèses à cause de la chaleur, et s'entourer de paroles excitantes et incitatrices lavant leur cerveau. Si ce rituel initiatique ne se déroule pas dans les années lycées, il se déroulera à ce moment. Au mois prochain, je continuerai à vous en parler après l'épisode 13 de Vlad le Barbare.
Oh oh, prends ça, nouvel épisode de Vlad le Barbare. Vlad le Barbare.
Épisode 13. Welcome to the scene of the crash.
À l'épisode précédent, Vlad a tenté de regagner promptement Charm pour explorer ses environs. Mais des méchants ont tiré à la baliste explosive sur le wagon où l'équipe se trouvait.
Bon, y'a quoi dehors ?
L'équipe est donc arrivée à environ 240 km de Charm. Une route juxtapose le lieu du crash et on peut entendre le bruit d'un cheval qui s'approche. La route est en plein milieu d'une forêt tropicale.
Sérieusement, tropicale ? On est largement pas assez nivelé pour être là. J'espère que ce cavalier est amical.
Effectivement, il est amical.
Bonjour monsieur, vous êtes seul ?
Non, il y a un groupe entier dedans. Vous êtes patrouilleur ?
Oui, Felden de la première tour. Visiblement, un des wagons a sauté.
Waouh, c'est une chance qu'on soit encore vivant. Connaîtriez-vous la région ? Ce serait bien si vous nous teniez compagnie pendant le voyage jusqu'au prochain village. On va à Charm.
Bien, j'étais sur le voyage de retour. Prenez votre stuff, direction le village de Gale Road.
L'équipe arrive donc à Gale Road après 6 km de route.
Ses ennemis, là, Murkas et ses fanfarons, ils sont beaucoup trop forts pour nous. On devrait profiter de la taverne ici pour choper un job, style l'éradication d'une bande de brigands nabes, ou l'escorte d'une caravane sur une des petites routes allant vers la jungle.
Ok, je vous sors un nouveau scénar parce que... sérieux, celui-ci est brutal.
S'il vous plaît, aidez-nous.
Felden pointe du doigt les aventuriers.
S'il vous plaît, aidez-nous. S'écrit avec trois U au nous. Presque toutes les nuits, il y a un nouveau mort qui marche dans nos rues. Ça fait la troisième fois d'affilée qu'un groupe se fait gifler par un zombie en allant à l'école.
Des zombies récurrents ?
Non, ça fait le 22e qui a été enterré. On a une fausse commune pour ceux qu'on n'arrive pas à identifier. Il y en a un différent qui vient tous les 1 à 2 jours.
C'est bizarre. À moins qu'il y ait un nécromancien stupide qui s'amuse avec ses pouvoirs pour emmerder superficiellement les gens, je vois pas qu'est-ce qui pourrait causer ça. Au moins, ça a l'air d'être une quête d'autre niveau.
Et alors ?
Je pense qu'on va aller à la taverne.
Pourquoi ?
Je me demande qu'est-ce qu'il y a à dîner.
La femme tente de frapper Mentai avec son bâton de marche, mais elle fumble et le bâton se brise sur son crâne. Elle n'a pas aimé la référence stupide.
Oh, et aussi, enquêter sur les abords de village. Est-ce que quelqu'un a vu d'où est-ce que les zombies venaient ?
Vlad et ses amis vont à la taverne et...
22.
Effectivement, les gens disent que les zombies arrivent toujours de la même direction, par l'est vers la jungle. Ils en ressortent et regardent à l'est de la ville et effectivement trouvent une piste à pister. À ce niveau et cette humidité, c'est presque un vrai chemin de terre battu, car les zombies sont tous passés par exactement le même endroit.
Bingo, c'est soit un système automatisé, soit un nécromancien réellement idiot qui fait des rituels tous au même endroit.
Et paysan, tu sais ce qu'il y a à l'est dans la jungle ? C'est la jungle, je suis paysan con. Je rentre dedans, je me fais éclater la tronche par la change.
Bon ben, tant de tempé. On achète 2 rations chacun et on déjeune.
L'émission est terminée. Au revoir. On se retrouve.
Rendez-vous le mois prochain.
Chrono.